Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Jean-Sylvestre Mongrenier, notre invité, chercheur à l'Institut français de géopolitique, directeur de recherche à l'Institut Thomas More et collaborateur de Desk Russie. Il signe un dictionnaire géopolitique du monde occidental aux presses universitaires de France. Bonjour Jean-Sylvestre Mongrenier.
Bonjour à vous.
Le monde occidental vit une crise civilisationnelle et politique qui exprime tout à la fois un vertige sur l'état des lieux, une perte de sens, un doute sur ses capacités, une haine de soi et une peur de la disparition qui se traduit aujourd'hui par la gigantesque insurrection anti-système qui secoue les démocraties d'Occident. Cette crise est une crise majeure, faite de critiques en tout genre qui viennent saper les bases de notre civilisation au risque de la détruire. À quoi s'ajoute l'autoritarisme qui s'affirme sur la scène politique trumpienne, autre réalité elle aussi destructrice, affaiblie par ses doutes et le schisme apparu brutalement entre l'Europe et l'Amérique de Donald Trump. L'Occident est par ailleurs confronté à une coalition dont la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping sont les leaders incontestés, liés par un ressentiment historique qu'ils nourrissent vis-à-vis de l'Occident et par la peur de l'attraction que la liberté occidentale pourrait susciter chez leur peuple. Ils voient l'Occident comme l'ennemi à abattre et mènent contre lui une guerre hybride à grande échelle qui connecte tous les théâtres d'opération. On va bien sûr en parler. Cette première question, Jean-Sylvestre Mongrenier, pourquoi un tel ouvrage en 2026 ?
Mais c'est l'aboutissement provisoire de travaux qui s'inscrivent dans la durée. Le fait est que j'ai commencé ma carrière universitaire en travaillant sur les questions de défense et de sécurité à l'échelle d'Europe, à l'échelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est d'une certaine façon l'expression de l'Occident. Donc, la question de défense de l'Occident, ça fait déjà longtemps que je travaille là-dessus. C'est par ce biais qu'ensuite, j'ai été amené à travailler longtemps sur la Russie. Je n'ai d'ailleurs pas complètement cessé. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la Turquie. Et donc, j'avais commis deux ouvrages de ce type, Le monde vu de Moscou et Le monde vu d'Istanbul, une géopolitique de la Turquie et du monde altaïque. Et c'était finalement une manière pour moi de progresser. C'est un peu la marche d'un crabe, d'une certaine façon, mais de progresser vers cette grande question qui m'anime en fait depuis longtemps. Je suis un grand lecteur de Spengler, de Toynbee, de Brodel, et donc à toute cette thématique civilisationnelle m'anime depuis de longues années et j'ai fini par enfin faire ce dictionnaire qui est un dictionnaire géopolitique, comme c'est indiqué, mais qui est aussi d'une certaine manière un dictionnaire amoureux de l'Occident.
Et tout à fait passionnant. Je rebondis juste sur une chose que vous venez de nous dire, Jean-Sylvestre Mongrenier. Vous parliez du monde vu de Moscou et de cet autre ouvrage, Le monde vu d'Istanbul. Alors pourquoi Istanbul et pas Ankara ?
Parce que je voulais pas saisir à l'histoire de la Turquie sur les temps longs, pas dans la longue durée, et donc ça inclut l'héritage ottoman. Et de ce fait, ça m'a semblé plus significatif de me référer à Istanbul, l'ancienne Constantinople, tout simplement.
Alors, Jean-Sylvestre Mongrenier, on va développer un tout petit peu sur la notion d'Occident. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous définissez finalement les frontières géopolitiques, culturelles et stratégiques de l'Occident?
L'Occident, d'abord, c'est l'Europe, puisque c'est le berceau de ce que l'on appelle l'Occident. D'ailleurs, étymologiquement, les deux termes sont quasi synonymes. Europe vient de l'assyrien Ereb et ça renvoie au couchant, donc à l'Occident, là où le soleil se meurt. Et puis, donc l'ancien Occident, ça correspondait géographiquement parlant à l'Europe occidentale, à l'Europe centrale. Là, je me réfère au Moyen-Âge. Ensuite, il y a eu les grandes découvertes, et donc à ces peuples de l'ancien Occident qui se sont jetés sur l'océan mondial, si je puis dire, et qui ont fondé des Europes d'outre-mer. Donc là, on pense à l'Amérique du Nord, on pense à un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Donc pour moi, en tout cas, l'Amérique du Nord, bien sûr, relève du Nouvel Occident, de l'Occident au sens moderne du terme. On pourrait y mettre également l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis après, il y a ce que l'on pourrait appeler des membres honoraires du club occidental. Je pense au Japon, à la Corée du Sud, d'une certaine façon, pendant un certain temps, la Turquie, pas la Turquie, une sorte de système Est-Ouest à elle seule, là, donc c'est une question passablement compliquée, mais bon, voilà à peu près quelle est la configuration de l'Occident aujourd'hui. Avant tout, le système euro-atlantique, et puis ses projections outre-mer avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d'Asie-Pacifique qui sont alliés aux États-Unis.
Alors, cet Occident, vous le dites, c'est une notion essentielle, mais qui est aujourd'hui malmenée, voire démonisée, à la fois par ses détracteurs qui y voient un héritage colonial ou impérialiste, et par ses défenseurs qui craignent son déclin. C'est aussi une identité fracturée entre l'Amérique de Donald Trump et l'Europe divisée. L'Occident est affaibli militairement, économiquement, politiquement. Cela ne fait guère de doute. La question est plutôt comment est-ce qu'il gère son déclin relatif, cet Occident ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est en déclin, Jean-Sylvestre Mongrenier, ou simplement en train de se réinventer ?
Alors, l'Occident, d'abord, c'est une dialectique de l'un et du multiple. Ça a toujours été une réalité fracturée. Il y a bien un ensemble de traits communs qui font que ces différents pays participent d'une même ère civilisationnelle. Mais cette ère civilisationnelle, finalement, a trouvé une cohérence stratégique, géopolitique, à l'issue des deux guerres mondiales, sous la direction des États-Unis. Mais sinon, quand on regarde à l'histoire de l'Europe, de l'Occident, sur les temps longs, le fait est que c'est une histoire de lutte pour la suprématie, de multiples guerres. Donc l'appartenance à une même civilisation n'est pas forcément irénique. Il suffit de considérer l'histoire de l'Europe jusqu'au cœur du XXe siècle pour bien comprendre la chose. Alors les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans l'unification stratégique et géopolitique de l'Occident. Au lendemain des deux guerres mondiales, ils ont joué le rôle de ce que les théoriciens des relations internationales appellent le stabilisateur hégémonique, l'hégémone, qui finalement assure la cohérence de cet ensemble. Il reste encore aujourd'hui, malgré tout, un chef de file, quoi qu'on puisse en dire. Il faudra peut-être revenir sur le schisme d'Occident. C'est une possibilité, c'est un risque, mais il n'est pas consommé. Il n'y a pas de point de non-retour qui a été atteint entre les différents pays membres de l'OTAN. Alors ensuite, on peut parler d'un déclin, un déclin toujours relatif, puisque c'est forcément considéré par rapport à d'autres États, d'autres puissances, d'autres aires civilisationnelles. Donc indubitablement, il y a une redistribution des cartes de la puissance, il y a un déplacement des équilibres de puissance et de richesse vers l'Orient, vers l'Asie, ce qui contraint pas les pays occidentaux finalement à non pas se réinventer, parce que je suis pas sûr qu'on se soit inventé purement et simplement déjà, mais en tout cas à s'adapter, à apporter un certain nombre de réponses, à se métamorphoser. Donc c'est toute la question de ce que l'on appelle à l'intérieur de l'OTAN le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau. Alors, ce thème est avancé de façon peut-être à la fois maladroite, arrogante par l'administration Trump, mais c'est un problème de fond qui se pose depuis plusieurs années, auquel il faut apporter des réponses. Et c'est ce que l'on négocie à l'intérieur de l'OTAN. Et c'est ce partage du fardeau, donc déjà à l'échelle de l'OTAN, ensuite à l'échelle de l'Asie-Pacifique. Les États-Unis négocient également avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, pour redistribuer la charge, pour redistribuer les responsabilités. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour faire face aux défis qui menacent l'Occident, oui.
Et on sait pour l'Europe ce que cela représente en termes, par ailleurs, de sacrifices, parce que, évidemment, tout cela signifie des mobilités sur les questions budgétaires. Je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué à l'instant, Jean-Sylvestre Mongrenier, la notion d'hégémon des États-Unis, la puissance américaine est là. Avec Donald Trump, elle devient pour l'Europe une menace, en particulier depuis la tentative trumpiste d'annexer le Groenland. L'épisode a laissé des traces profondes. Comment voyez-vous la relation transatlantique aujourd'hui, Jean-Sylvestre Mongrenier ?
Cette relation transatlantique demeure, l'Alliance Atlantique demeure, l'OTAN demeure, le sommet d'Ankara, finalement, c'est à peu près correctement passé. Alors c'est vrai qu'il y a...
Du mois de juillet.
Il y a l'équation personnelle que représente Trump. Le fait est que ça pose nombre de problèmes. Ses propos dépassent souvent quand même la réalité des faits. Alors il y a le discours, mais à l'intérieur même des États-Unis, il semble qu'il y ait un certain nombre de forces de rappel, de contre-pouvoir, qui jouent malgré tout. Et donc sur le Groenland, c'était plus une rhétorique qu'un mouvement qui était véritablement engagé, ce qui fait que le recul de Trump a été rhétorique. Il n'a pas mis fin à une opération qui était en train de se dessiner.
Elle avait quel objectif, cette rhétorique, d'après vous, Jean-Sylvestre Mongrenier ?
Alors, il y a la personnalité de Trump. Le fait est qu'il a un certain nombre d'obsessions, de compulsions répétitives. Et donc, c'est quelque chose qui avait déjà été abordé. La possibilité purement théorique d'une annexion d'une Groenland lors de son premier mandat. Ensuite, il y est revenu. Apparemment, quelqu'un dans son entourage lui a mis cette idée en tête et ça lui a plu. Je ne pense pas que ça corresponde à un mouvement profond des États-Unis à l'intérieur du Sénat, y compris à l'intérieur des camps républicains. Les uns et les autres étaient plutôt effarés par ce discours qui lui est propre. Mais bon, simultanément, jusqu'à ces derniers mois, en tout cas, ou ces dernières semaines, il y a une partie de l'appareil politique républicain qui semblait tenue en respect par cette insurrection populiste dont vous parliez tout à l'heure, à la base, à ce que l'on appelle le mouvement MAGA, qui exerce une très forte pression sur les élus, et puis qui a fait de Donald Trump son porte-parole. Donc il y a bien des contradictions politiques internes aux États-Unis qui retentissent sur la politique extérieure des États-Unis, ou en tout cas sur le discours tel qu'il est tenu par Donald Trump. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces contradictions internes à la démocratie américaine, on les retrouve dans toutes les démocraties occidentales. Donc ça correspond bel et bien à un mouvement de fond, à un certain nombre de problèmes politiques internes, de problèmes économiques qui se sont accumulés dans les démocraties occidentales et qui peuvent entraîner des effets disruptifs, comme on dit aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous voyez, Jean-Sylvestre Mongrenier, un retour possible à la situation qui prévalait depuis plusieurs décennies, ou bien les relations transatlantiques ont finalement aujourd'hui atteint un point de non-retour? Vous évoquiez là aussi un schisme d'Occident. Est-ce qu'on va vers un schisme d'Occident, Jean-Sylvestre Mongrenier?
Il n'y a pas de point de non-retour qui a été atteint. L'OTAN demeure. Simplement, il y a une redistribution des pouvoirs et des responsabilités, ce qui fait que les alliés européens vont devoir faire beaucoup plus par eux-mêmes. À bien des égards, on peut juger que c'est d'ailleurs quelque chose de sain, de bien normal. Les relations transatlantiques, elles sont difficiles en ce moment, mais maintenant, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est quand on regarde les choses sur plusieurs décennies, puisque l'Alliance Atlantique est née en 1949, le 4 avril 1949, ces relations transatlantiques, à plusieurs reprises, ont été chahutées, bousculées. Ça n'a jamais été une histoire, l'histoire d'un fleuve tranquille, si vous voulez, loin s'en faut. Donc peut-être qu'il faut quand même relativiser la chose. Ce n'est pas la première fois, et finalement, c'est dans l'ordre des choses. Cette alliance atlantique, elle réunit plusieurs États, plusieurs unités politiques, qui convergent sur un certain nombre de choses, qui convergent jusqu'à aujourd'hui sur l'essentiel. Mais la convergence sur l'essentiel, ça n'empêche pas des divergences sur nombre de questions. Et quand on regarde tous les débats, les crises à l'intérieur de l'OTAN à l'époque où les Américains sont passés de la doctrine des représailles massives à celle de la riposte de graduée sur le plan nucléaire, quand on regarde aussi toutes les retombées de la guerre du Vietnam, les pressions américaines pour qu'un certain nombre de pays européens s'engagent auprès d'eux dans cette guerre du Vietnam, le refus de ces pays européens, finalement, les crises ont été fréquentes. Et comme je le disais, c'est certainement dans l'ordre des choses. Tout a toujours très mal marché. Donc parfois, j'ai le sentiment qu'on a réifié l'Alliance Atlantique, l'OTAN, les relations transatlantiques. On en est venu à les confondre avec leur idéal type, leur représentation schématisée, simplifiée. Et puis, c'est ce qui nous sert à d'étalon pour juger l'état des relations transatlantiques, avec donc à partir de là cette idée selon laquelle finalement auparavant tout n'était que luxe, calme et volupté, et aujourd'hui ça part dans tous les sens, alors que j'ai un peu le sentiment que c'est, comment dirais-je, les anglo-saxons, history as usual, si vous voulez.
Don't Come Knocking de U2 Chile. Nous sommes avec Jean-Sylvestre Mongrenier qui signe Dictionnaire géopolitique du monde occidental. Jean-Sylvestre Mongrenier, comment est-ce que l'Occident finalement peut relever les défis d'un monde où la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping et même des alliés traditionnels comme la Turquie remettent en cause son leadership? Il y a aujourd'hui, on ne peut pas le nier, une sorte d'axe géopolitique anti-occidental avec des pôles. J'ai évoqué la Chine, la Russie. Il y a aussi l'Iran, la Corée du Nord. Qu'est-ce qui motive les dirigeants de ces pays?
Alors d'abord, leur opposition à l'Occident. Le fait est qu'il y a un passif historique, il y a une volonté de revanche à l'égard de l'Occident, parce que l'Occident dont nous avons parlé précédemment, c'est une réalité séculaire, donc inscrite dans les temps longs de l'histoire, sur plusieurs siècles, qui a commencé à prendre le pas à l'échelle globale à partir du XVIe siècle, dirons-nous. Donc, alors c'est une hégémonie collective qui était exercée par l'Occident, puisque ce même Occident était partagé entre différentes puissances, elles-mêmes en lutte pour la suprématie. Il suffit de penser aux Espagnols, aux Portugais. Il y a eu un moment où il y a eu une brève suprématie hollandaise, les Anglais, les Français. Entre les Français et les Anglais, ça s'est joué finalement dans ce qu'on pourrait appeler une seconde guerre de 100 ans, qui commence sous Louis XIV avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1688, de mémoire, et puis qui se perpétue jusque 1815. À partir de 1815, il est désormais assuré que c'est l'Angleterre qui constitue la première puissance mondiale. Là, c'est le début de ce que l'on appelle le siècle de l'Angleterre, jusqu'à ce que les États-Unis finalement prennent la direction de cet ensemble et surtout mettent fin aux luttes hégémoniques entre les différents pays européens, des luttes hégémoniques qui avaient conduit aux deux guerres mondiales, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre de 30 ans. C'est le grand historien britannique Toynbee qui, entre autres, compare les deux guerres mondiales à une nouvelle guerre de 30 ans. Bon, toujours est-il que d'un point de vue extérieur, du point de vue de la Chine, du point de vue de la Russie et d'un certain nombre d'autres pays, l'Occident est bel et bien perçu de manière globale, et il y a cette idée qu'il faut prendre la revanche sur l'Occident, que la fin de l'Occident, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se jouer à ce moment même, et qu'il faut en quelque sorte pousser ce qui tombe, pour citer Nietzsche. Alors après, au-delà de cette opposition à l'Occident, mais qui est très forte, qui est viscéral, qu'il faut réaliser. Ce n'est pas uniquement avec quelques génuflexions, quelques actes de contrition sur les empires passés qu'on pourra s'en tirer, loin s'en faut. Et de toute façon, les empires, ça nous ramène à Sumer et à Akkad. Ce n'est pas quelque chose de spécifiquement européen, de spécifiquement occidental. Alors après, au-delà de cette opposition à l'Occident, bien sûr, ces pays ont leurs propres objectifs de puissance. Alors notamment la Chine, la Russie. La Russie cherche à reconstituer toute la sphère qui était autrefois couverte par l'URSS. Elle a le sentiment que c'est son empire d'autrefois qu'il faut reconstituer. C'est quelque chose qui travaille au corps Poutine depuis 1999-2000, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est un projet constant. Ce n'est pas une fuite en avant. C'est son programme géopolitique, c'est sa ligne de force. Et puis ensuite, il y a la Chine avec cette idée fausse, à mon sens, mais cette idée que jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la première puissance mondiale, c'était la Chine. La Chine aurait été détrônée par les pays occidentaux et elle devrait retrouver le premier rang mondial. Alors, elle n'a jamais eu le premier rang mondial, parce que la Chine était une superpuissance à l'échelle de l'Asie de l'Est, mais ça n'était pas une puissance de rang planétaire, comme l'étaient les puissances européennes émergentes. Enfin, toujours est-il que ces pays, ce qui les réunit, parce qu'après, il y a quand même beaucoup de choses qui les divisent, ce qui les réunit, c'est leur opposition à l'Occident, et ils forment ce que l'on appelle aux États-Unis les cranks. Donc, c'est un acronyme, Chine, Russie, Iran, et puis le cas, c'est pour Corée, la Corée du Nord. Crank, en anglais, ça signifie une personne dérangée, il y a tout un jeu de mots aux États-Unis là-dessus. C'est la revue National Interest qui introduit cet acronyme, qui est en même temps un concept, qui n'a pas véritablement pris en France, en Europe, parce qu'il ne signifie pas grand-chose pour nous. Il n'y a pas ce jeu de mots qui nous saute aux yeux. Mais le fait est que vous avez ces quatre puissances qui sont liées entre elles par de fortes synergies géopolitiques, qui, à certains égards, constituent une alliance. Alors, ce n'est pas une alliance globale, instituée, pas comme l'est l'OTAN, avec un traité en bonne et due forme, un préambule civilisationnel, un article 5, c'est-à-dire une clause de défense mutuelle explicite. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais le fait est que ces pays sont réunis par ces synergies géopolitiques et puis agissent de concert dans une certaine mesure, ou en tout cas se divisent le travail. Et si on prend le cas des États-Unis, le fait est qu'ils sont écartelés entre trois théâtres. Il y a le théâtre européen où ils sont toujours présents à l'intérieur de l'OTAN, il y a le théâtre moyen-oriental, et puis enfin vous avez l'Asie-Pacifique, plus largement l'Indo-Pacifique. Et donc là, ça nous ramène à ce qu'on abordait tout à l'heure, l'urgence du burden sharing, parce que le fait est qu'ils sont victimes ils sont potentiellement la victime de ce que l'on appelle un strategic overstretching, c'est-à-dire un hyper étirement.
Alors, juste une question avant de parler des zones de conflit, l'Europe et Moyen-Orient, Jean-Sylvestre Montgrenier, quel est le grand ordonnateur de cet axe géopolitique anti-occidental? Vous les avez nommés, Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, c'est la Chine?
Aujourd'hui, c'est la Chine qui joue le rôle essentiel. Mais dans les années 90-2000, la Russie post-soviétique, ce que j'appelle la Russie Eurasie, puisque finalement, l'espace qu'elle revendique correspond à l'Eurasie post-soviétique, cette Russie jouait un rôle moteur. Et ça a commencé avant même Poutine, sous Yeltsin. Là, il faut rappeler ce qu'on appelle la diplomatie Primakov. Primakov donc, était un diplomate soviétique important, qui ensuite a continué à jouer un rôle après la dislocation de l'URSS. Il est à la tête de l'ex-KGB. Il a été ministre des Affaires étrangères et puis ensuite il a été premier ministre d'Yeltsin. Et il faisait tout dès les années 90 pour mettre sur pied ce qu'il appelait des coalitions anti-hégémoniques avec la Chine populaire, avec l'Iran. Il a également cherché à tirer l'Inde dans cette affaire et un certain nombre de pays. Et en fait, dès les années 90, on voit déjà des efforts de la part de la Russie pour reconstituer une force d'opposition à l'Occident. Et donc, dans les années 2000, si on se reporte désormais à Poutine, vous voyez, il était bien conscient du différentiel de puissance avec la Chine sur le plan économique, notamment. Mais bon, il comptait sur ses avantages comparatifs, sur le plan militaire, sur le plan nucléaire, et puis aussi sur une sorte de savoir-faire à la fois diplomatique, stratégique, idéologique. Et donc, il voyait la Russie comme le pays clé pour mettre sur pied cette coalition anti-occidentale. Alors maintenant, si on regarde les dernières années, encore plus depuis l'offensive tous azimuts à grande échelle qui est menée contre l'Ukraine, il y a une accélération du tempo. Le différentiel de puissance entre la Russie et la Chine est encore plus évident qu'il y a une dizaine d'années, ce qui fait que la Chine, avec sa puissance, l'allonge dont elle bénéficie, constitue en quelque sorte le grand ordonnateur de cette coalition globale. Alors la Russie est bien consciente de la chose, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Ils estiment avoir besoin de la Chine pour pouvoir mener leur propre combat, ce qui est indubitable. Et puis par ailleurs, ils comptent bien dans le sillage de la Chine pratiquer ce que l'on pourrait appeler une sorte de maraudage géopolitique et essayer de reconstituer une partie de leur puissance.
Alors, dans votre dictionnaire géopolitique du monde occidental, Jean-Sylvestre Montgrenier, vous parlez bien sûr des guerres d'Iran et d'Ukraine. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a convaincu Trump d'intervenir en février dernier en Iran, promettant que l'attaque ne durerait pas plus de quelques semaines, on est aujourd'hui à 6 mois. Benjamin Netanyahou donc était à Washington cette semaine, de même que Volodymyr Zelensky. Chacun a pu rencontrer le chef de la Maison-Blanche. À vos yeux, les deux conflits sont liés, le conflit en Iran et cette guerre d'Ukraine que mène la Russie depuis plusieurs années. Donc deux conflits liés, mais de quoi parlez-vous exactement, Jean-Sylvestre Montgrenier ?
Déjà, la Russie, dans la guerre d'Ukraine, a dû se tourner vers l'Iran pour obtenir un soutien, notamment en matière d'armement, de Shahed, de drones, etc. Et puis, actuellement, l'Iran, dans sa guerre contre les États-Unis et leurs alliés du Golfe arabo-persique, qui sont régulièrement bombardés, elle s'appuie et sur la Chine et sur la Russie. Il est à peu près établi que les frappes précises de l'Iran reposent sur un partage du renseignement satellitaires, sur un certain nombre d'images satellitaires qui sont communiquées par Moscou et par Pékin à l'Iran. Donc déjà là, on voit l'interconnexion entre ces deux conflits. Et ensuite, une sorte de grande diagonale, quand on regarde la carte, de la mer Noire vers le golfe arabo-persique qui solidarise ces conflits, l'Ukraine qui se retrouve à l'intersection de ces conflits, ne serait-ce qu'en apportant son soutien en termes de technologies, de drones aux pays du Golfe, en signant un certain nombre de partenariats de défense, de sécurité avec les Émirats arabes unis, avec d'autres pays du Golfe. Donc ça vient, là encore, matérialiser cette solidarité stratégique entre les deux théâtres conflictuels. Et puis enfin, finalement, à travers ces deux guerres, on retrouve des trois grands théâtres sur lesquels se joue cette grande partie géopolitique, cette lutte hégémonique à l'échelle planétaire. Vous avez l'Europe, vous avez à l'autre extrémité, là je vais citer tout de suite le troisième théâtre, Taïwan, ce que l'on appelle la Méditerranée asiatique, donc en gros la mer de Chine du Sud et la mer de Chine de l'Est. Et puis au milieu, vous avez l'Iran qui se trouve sur le boulevard méridional de l'Eurasie, qui constitue le troisième partenaire de cette alliance complexe, multiforme entre la Chine et la Russie. Et donc, là, les États-Unis, finalement, directement ou indirectement, se retrouvent impliqués, engagés dans deux conflits.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi, chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout. S'enivre au champagne dans tes beaux yeux noirs. Je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd.
Les yeux noirs de Pamplemousse. Nous sommes avec Jean-Sylvestre Montgrenier et son dictionnaire géopolitique du monde occidental. Jean-Sylvestre Montgrenier, on va parler de l'Ukraine. Je l'ai dit précédemment, Volodymyr Zelensky a été reçu à la Maison-Blanche cette semaine. Une réception qui s'est plutôt mieux passée qu'en 2025. Il lui avait été dit alors qu'il n'avait pas les cartes en main. Est-ce qu'il a plus aujourd'hui les cartes en main et est-ce qu'il les utilise à bon escient pour exploiter les vulnérabilités russes, Jean-Sylvestre Montgrenier ?
Oui, alors la situation pas stratégique de l'Ukraine s'est améliorée, même s'il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Bah, mais le fait est que l'acquisition et le développement de capacités de frappe en profondeur, dans ce qu'on appelle la plus grande profondeur, permet de modifier la donne, puisque déjà les Russes voient les conséquences de la guerre sur leur propre territoire, et il y a un effet de désorganisation logistique, de désorganisation du système énergétique russe qui est essentiel, dont les exportations sont essentielles pour financer cette guerre. Et le fait est que l'Ukraine a su reprendre l'initiative. Alors maintenant, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que indépendamment de la réception, si je puis dire, de Zelensky, début 2025 à la Maison-Blanche, indépendamment de l'impression que ça a pu donner, les Américains n'ont jamais lâché l'Ukraine. Il faut faire attention parce qu'il y a cette petite musique qui s'est installée, et puis on s'est installé dans le temps de la finalité accomplie, ça y est, c'est fini. Ils ont lâché l'Ukraine, ils ont lâché l'Europe purement et simplement, ils ne sont plus là, passons à autre chose. Alors qu'il y a toujours eu des livraisons d'armes. Alors c'est vrai que ces livraisons d'armes, aujourd'hui, elles sont financées pas par les Européens, mais après tout, on peut considérer que ça fait partie de nos responsabilités propres, et ça s'inscrit pas dans cette logique de burden sharing, de partage du fardeau dont je parlais tout à l'heure. Donc, de mon point de vue, c'est pas quelque chose de scandaleux, loin s'en faut. Et puis après, il y a le partage du renseignement satellitaire, le partage de l'information qui joue un rôle essentiel. Et on peut penser pas que la précision des frappes ukrainiennes dans la grande profondeur du champ de bataille, elle doit beaucoup aux renseignements, à l'information qui sont données par les Américains. Et donc, Zelensky, avec le soin qu'il attache à conserver un lien fort avec les Américains, nous montre l'importance conservée finalement des États-Unis. Je précise la chose parce qu'il y a un petit discours, c'est ce que j'appelle le faux tragique, qui s'est installé en Europe. La situation est grave, mais finalement, c'est pas si grave. Et donc, après tout, si les Américains s'en vont, si l'OTAN éclate en morceaux, c'est pas plus mal. On va construire une belle Europe, une grande Europe qui sera forte, puissante et en plus morale. Et c'est un discours qui me semble dangereux, parce que le fait est que l'apport américain, la participation américaine à l'OTAN, elle reste essentielle en l'état des choses pour la défense de l'Europe.
Alors, tout de même, vous avez dit que jamais les Américains n'avaient arrêté leur livraison d'armes à l'Ukraine. Pourtant, et j'en reviens à cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump cette semaine à Washington, qu'est-ce qui fait que le ton américain ou le ton de Donald Trump a changé vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, Jean-Sylvestre Mongonier ?
Peut-être qu'il commence à comprendre enfin qu'il n'y aura pas de Nixon in reverse. Le Nixon in reverse, faire le contraire de ce que Nixon avait fait au début des années 70, ça c'était une idée forte dans certaines parties du milieu républicain aux États-Unis. Et donc il y avait l'idée qu'il fallait à tout prix retourner la Russie contre la Chine de façon à modifier radicalement l'équilibre des forces. Et ça c'est une idée que Trump a fait sienne. Il l'évoquait déjà lors de son premier mandat, mais il n'avait pas les coudées franches. Et au début de son second mandat, il s'est mis en tête de réaliser cette grande opération diplomatique, un renversement d'alliance en quelque sorte. Je vais essayer de négocier une alliance avec la Russie contre la Chine de façon à bouleverser la situation géopolitique. Et puis, dans cette affaire, eh bien, s'il faut sacrifier l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine, pourquoi pas ? C'est la raison d'État qui devrait l'emporter. Et donc, c'est ça qui animait l'administration Trump. Alors après, il y a certainement d'autres facteurs à prendre en compte, l'affairisme des uns, les désinvolture des autres. C'est vrai que nombre de membres de cette administration font preuve d'un certain amateurisme qui se combine aussi à une certaine arrogance. Mais il me semble qu'il y avait quand même cette grande idée derrière, le Nixon in reverse. Et donc, au bout d'un an et demi, ça fait un an et demi que l'administration Trump est en place, force est de constater qu'il n'est pas question pour la Russie de renoncer à son alliance avec la Chine, d'autant plus que tous ces griefs géopolitiques sont à l'ouest et non pas à l'Est. Lui, ce qu'il voudrait récupérer, c'est les ex-républiques soviétiques. Il voudrait même, là je renvoie au mémorandum qu'il avait publié en décembre 2021, il voudrait même satelliser à nouveau les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, il n'y a pas de place pour une sorte de compromis. Ce n'est pas une affaire qui se réduit au Donbass, comme certains voulaient le croire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, d'ailleurs. Ça serait une simple question de bornage territorial. Si on règle ce contentieux territorial, qui n'est pas très important, quantitativement parlant, on pourrait passer à autre chose. Mais non, Poutine, il a lui-même sa propre grande idée en tête, reconstituer l'URSS d'une façon ou d'une autre, en tout cas pas l'enveloppe géopolitique qui était celle de l'URSS autrefois, et ça ne laisse pas de place à un compromis raisonnable. Donc du côté américain, du côté de l'administration Trump, on semble avoir compris ça. De même que les étroites relations entre la Russie et l'Iran sont certainement prises en compte. Ce n'est pas parce que Donald Trump refuse de confesser la chose publiquement. De toute façon, c'est un homme de mauvaise foi d'une façon générale. Il ne va pas dire « je me suis trompé ». Mais ça ne signifie pas qu'il ne prend pas la chose en compte.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, reconstituer l'URSS. Cette guerre de Vladimir Poutine, elle n'est évidemment pas gouvernée par des relations internationales rationnelles ou une stratégie militaire conventionnelle, mais plutôt par la théorie politique de l'autocratie et de survie du régime. Est-ce que, Jean-Sylvestre Montgrenier, une escalade de Vladimir Poutine est à attendre? Les prochains mois vont-ils marquer la phase la plus dangereuse de la guerre de la Russie en Ukraine?
L'escalade est toujours possible, et ça correspondrait à la fois à la personnalité de Poutine, d'une part, et puisqu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises dans les années qui précèdent de marquer le pas. L'idée d'une partie des dirigeants occidentaux, c'était de lui laisser une porte de sortie pour s'en sortir à peu près honorablement. Il n'a jamais voulu. Et puis, il y a cette grande idée géopolitique, ce programme géopolitique qui passe par la conquête de l'Ukraine, par la conquête pure et simple de la partie orientale de l'Ukraine, à l'est du Dniepr, et puis la satellisation d'un État ukrainien croupion, en quelque sorte, la partie occidentale, la partie qui se trouve à l'ouest du Dniepr. Et ça, il y tient. C'est véritablement la pierre angulaire de sa conception du monde. Il considère que la Russie ne peut pas espérer redevenir un empire si elle ne récupère pas l'Ukraine. Et donc, j'ai du mal à l'imaginer reculer tant qu'il arrive à tenir la Russie, en tout cas, d'une main de fer. Et donc, au fil des ans, il a renforcé son emprise sur la Russie. Ça a commencé par un grignotage des libertés publiques. Et ce grignotage, il s'est transformé en suppression pure et simple de la plupart des libertés publiques, et il compte certainement aller plus loin encore en ce sens. Alors on parle là d'une éventuelle mobilisation, ça reste encore théorique, il va y avoir des élections législatives, des élections législatives en septembre, qui bien sûr seront sous contrôle, et ensuite, après ces élections législatives, Vladimir Poutine pourrait lancer une mobilisation qui lui permettrait de disposer de plus de moyens pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Mais pour lui, je dirais que c'est presque une question de vie ou de mort. Il entend bien aller de l'avant. Et ce n'est pas une fuite en avant. Je voudrais quand même souligner la chose. Il n'est pas saisi par une sorte d'irrationalité, d'affolement, je ne sais plus quoi faire, j'accélère, j'escalade. Non, ça correspond à un programme géopolitique qu'il a élaboré dans la durée, dont les premiers signes sur le plan rhétorique, mais également dans le domaine de l'action, sont déjà sensibles au début des années 2000.
Alors dans tout cela, on voit les uns et les autres s'armer, bien évidemment, soutenir les uns un camp, les autres un autre camp. Je pense à l'Iran, à la Corée du Nord, à la Chine qui apporte de près ou de loin un soutien à la Russie. J'aimerais qu'on parle un peu de l'Iran avec vous, Jean-Sylvestre Montgrenier. Vous jugez sévèrement le préaccord de Versailles du 17 juin, estimant que Téhéran y aurait obtenu l'essentiel. En quoi cet épisode et le ressentiment de Donald Trump envers des alliés européens accusés de ne pas l'avoir suivi dans son offensive contre l'Iran pèsent aujourd'hui ?
Alors déjà, sur les récriminations, sur le ressentiment de Donald Trump, hein, s'il avait voulu essayer de nous entraîner dans cette affaire, il aurait déjà dû se livrer à un effort diplomatique de longue haleine, hein, comme par exemple là, George Bush père l'avait fait au moment de la guerre du Golfe. Hein, ça avait été précédé pas d'une longue phase diplomatique. Hein, il avait pris beaucoup de temps pour monter une coalition, pour trouver un accord entre ses différents membres, ou même comme George Bush fils l'avait fait sur l'Irak. Hein, la guerre d'Irak, elle s'est pas produite comme ça. Sur un coup de tête. Alors, bon, il y a eu une bataille diplomatique, notamment entre la France et les États-Unis, qui a laissé un certain nombre de traces encore aujourd'hui. Mais le fait est qu'il y a eu des mois et des mois de discussions diplomatiques pour essayer de monter une sorte de front commun, d'essayer d'obtenir un vote à l'intérieur de l'ONU. Bon, puis c'est quand George Bush fils a compris qu'il n'aurait pas de vote favorable à l'intérieur de l'ONU, qu'il a décidé de monter cette opération à l'extérieur de l'ONU. Mais il avait quand même pris soin de s'assurer un certain nombre d'alliés dans cette affaire, y compris en Europe. Il y a nombre de pays européens qui ont participé à cette entreprise. Là, du côté de Donald Trump, c'est parti comme ça d'un seul coup, le 28 février, sans qu'il y ait eu de préparation diplomatique. Alors après, venir se plaindre qu'il est tout seul dans cette affaire, sinon avec Israël, c'est difficilement recevable. Alors cela dit, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est un conflit qui s'inscrit dans la durée. On ne peut pas considérer que tout commence le 28 février. Mmh. Il y avait déjà eu des échanges de tirs balistiques entre Israël et l'Iran en 2025, en 2024, et puis depuis longtemps, depuis au moins les années 2000-2010, vous aviez l'Iran qui avançait dans la région, qui développait donc un programme géopolitique expansionniste en s'appuyant sur ce qu'on appelle aujourd'hui des proxies, donc en s'appuyant sur un certain nombre de forces par procuration. Bien sûr, il y a le Hezbollah au Liban, et puis différentes milices panchites qui avaient été montées, l'alliance avec la Syrie de Bachar al-Assad à cette époque. Donc le fait est qu'il y a un véritable problème stratégique avec l'Iran. Et la volonté de l'Iran, c'est de prendre le contrôle du Moyen-Orient, purement et simplement. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz, c'est ce que l'on voit aussi aujourd'hui avec le détroit de Bab el-Mandeb, puisque les Houthis sont bel et bien financés, équipés, soutenus par l'Iran. Pendant longtemps, on n'a pas voulu voir la chose en France, notamment. On nous expliquait que non, finalement, les Houthis faisaient un peu ce qu'ils voulaient, puis ils n'avaient pas de véritable capacité de mener une stratégie de cette envergure. Mais enfin, on voit qu'ils sont bel et bien alliés à l'Iran, et puis qu'ils ont un certain nombre de moyens qui peuvent accroître encore le chaos. Donc, Européens comme Américains, nous sommes bel et bien confrontés à un problème géopolitique de première importance avec l'Iran. Et donc, il faudrait réussir à se mettre d'accord sur la riposte à apporter.
Alors justement, vous parlez de problèmes stratégiques. Est-ce que vous diriez, Jean-Sylvestre Montgrenier, que finalement l'Iran constitue le dernier exemple d'une série d'échecs stratégiques américains qui incluent l'Irak, l'Afghanistan
D'abord, la partie n'est pas finie. Elle a commencé il y a longtemps avec l'Iran, sans remonter jusqu'à 1979, en tout cas pas depuis les années 2000, à la suite de la guerre d'Irak. Finalement, le fait est que ça a ouvert un boulevard à l'Iran et il y a eu une montée en puissance de l'Iran. Il y a un programme nucléaire clandestin sur le plan militaire qui a été révélé au début des années 2000, mais qui avait commencé dans les années 90. Donc c'est véritablement dans la longue durée qu'il faut saisir le problème stratégique géopolitique iranien. Et ça n'est pas fini. Donc, je me refuse à parler purement et simplement d'échecs. Ensuite, il faudrait apprendre les différents conflits. Sur un plan strictement militaire, l'engagement américain en Irak ne s'est pas soldé par une défaite. Mais le fait est que par rapport au grand projet de remaniement géopolitique du Moyen-Orient et à l'extension, sinon de la démocratie libérale, du moins de logique de libéralisation dans la région, le compte n'y est pas. Mais je serais moins sévère. J'ai l'impression qu'il y a un petit récit qui s'est mis en place et puis qui vise à expliquer que finalement, depuis 1945, les États-Unis auraient perdu toutes les guerres qu'ils ont menées. C'est à regarder de plus près. Même si on prend la guerre du Vietnam, si on se limite au champ vietnamien, on peut dire oui, regardez, ils sont partis, le Vietnam du Sud s'est effondré, c'est le Vietnam du Nord communiste qui l'a emporté. Mais il faut bien voir que c'était un champ, un théâtre théâtre d'opération dans un conflit beaucoup plus large, hein, qui était celui de la guerre froide, sans lequel on ne pouvait pas comprendre, hein, cet engagement au Vietnam. Et puis on peut aussi penser, hein, que si les Américains ne s'étaient pas engagés au Vietnam, toute l'Asie du Sud-Est aurait pu basculer. Mmh, hein. Mmh. Or, pendant, hein, cet engagement, hein, militaire américain au Vietnam, les pays de la région étaient encouragés, hein, par les États-Unis à mettre sur pied ce que l'on appelle l'ASEAN. Hein. L'ASEAN a été mis sur pied en 1967. Donc ces pays se sont coordonnés politiquement, pas diplomatiquement. Ils ont opéré pas ce que l'on appelle le take-off en économie, pas le décollage, hein, jusqu'à devenir de nouveaux tigres asiatiques et donc acquérir une certaine masse critique, une certaine force, hein, et qui leur a permis de se développer. Hein, donc Et je suis plus circonspect.
Il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission. J'avais encore plein de questions à vous poser, Jean-Sylvestre Mongrenier. Je suis obligée d'en supprimer. Je voudrais juste rebondir sur la question du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Cette semaine a été marquée par une attaque conjointe américano-saoudienne sur l'Irak, sur des points occupés par des milices financées par l'Iran. Vous craignez une extension du conflit. Je veux dire, on voit aujourd'hui l'Arabie saoudite s'engager auprès des Américains.
L'Arabie saoudite s'engage parce qu'elle est engagée, si je puis dire, c'est pas du très bon français, mais elle est engagée par l'Iran. Le fait est que les différents pays du Golfe arabo-persique ont été agressés militairement à plusieurs reprises par l'Iran. Donc au départ, ils ont fait preuve d'une certaine retenue parce qu'ils espéraient pas qu'il y avait une voie de sortie proche, possible. À l'évidence, ça n'est pas le cas. Donc il y a bien un moment où la riposte vient. Le Koweït est également régulièrement frappé. Les Émirats arabes unis sont régulièrement frappés. Donc peut-être qu'on évitera une sorte de schisme là, à l'intérieur du Golfe arabo-persique, puisqu'il y a quelques semaines, là, on parlait beaucoup des désaccords entre, pas d'un côté, l'Arabie saoudite, de l'autre côté, les Émirats arabes unis, qui s'opposeraient. Alors, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP. Bon, c'est un peu une autre question. Mais enfin, tout se tient, tout retentit surtout. Mais il y avait aussi l'idée que, finalement, les Émirats arabes unis, qui ont signé les accords d'Abraham, se rapprocheraient encore plus des États-Unis, d'Israël, dans une logique de guerre contre l'Iran, et puis que l'Arabie saoudite, le Qatar et quelques autres pays de la région, eux, seraient beaucoup plus accommodants et qu'il y aurait un clivage à l'intérieur du monde arabo-sunnite dans la posture face à l'Iran. Là, on voit que ça n'est pas possible. Et inévitablement, l'Arabie saoudite, les pays de la région sont absorbés par les logiques, sinon d'escalade au sens vertical du terme, en tout cas d'escalade horizontale, c'est-à-dire d'extension géographique du conflit. Mais je ne vois pas comment il pourrait en aller autrement.
Et pour terminer, Jean-Sylvestre Mongrenier, l'Europe pourra-t-elle rester à l'écart de tout cela longtemps ?
Elle n'est pas à l'écart. Ne serait-ce que l'importance du détroit d'Ormuz, l'importance du détroit de Bab-el-Mandeb, de la route de Suez pour l'Europe, pour l'économie européenne. Le Moyen-Orient, finalement, c'est notre Orient à nous. L'expression de Moyen-Orient, c'est vu d'Europe. Donc là encore, je ne vois pas comment les pays européens pourraient rester à l'écart. Il faudrait réussir à monter une grande stratégie avec les Américains, les pays de la région, qui permettrait d'apporter des réponses. Alors peut-être que ça serait plus une stratégie indirecte qu'une stratégie directe, frontale, parce qu'on voit les limites de cette stratégie directe, frontale, mise en œuvre par intermittence, par les États-Unis. Mais par intermittence, ça joue aussi beaucoup. C'est parce que Donald Trump se refuse à véritablement escalader. Il reste persuadé que il doit être possible de négocier un accord, de négocier un deal, comme il aime à le répéter. Et donc, il met la force militaire au service de cette négociation. Il ne s'est pas véritablement inscrit dans une logique de guerre qui s'étalerait sur 6 ou 8 mois. Donc, c'est pour ça que je me refuse à parler d'échec pur et simple des États-Unis. Ils n'ont pas encore voulu rentrer véritablement dans une logique de guerre totale, si je puis dire, le terme n'est pas tout à fait adéquat, contre l'Iran.
Et j'en reviens à la question européenne, avec cette alliance que vous évoquiez précédemment, l'alliance Russie-Iran, qui est une véritable menace.
Oui, les Ukrainiens l'éprouvent dans leur chair. Il suffit de penser au Shahed qui régulièrement tape le territoire ukrainien, les villes ukrainiennes, les militaires et les civils ukrainiens. Donc c'est une réalité. Sans parler de la portée de tir des missiles balistiques iraniens. On sait aujourd'hui qu'ils ont jusqu'à 4000 km de portée. Pendant longtemps, on ne voulait pas le voir, tout ça. On nuançait. L'Europe est dans le champ de tir de l'Iran.
Merci Jean-Sylvestre Mongrenier.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique, directeur de recherche à l'Institut Thomas More et collaborateur du Desk Russie. Et vous signez un dictionnaire géopolitique du monde occidental aux presses universitaires de France. Géopolitique qui était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI. L'actualité se poursuit et tout de suite le journal.